ciseaux. Écosystème, Florence Farion.
Carlo est entré dans la vie de notre invité de manière brutale. On ne s'attend jamais à ce genre de rencontre. Pourtant, en juillet 2013, elle a compris tout de suite que cette arrivée allait tout chambouler. Un homme, le même depuis plus de 35 ans, 4 enfants, une belle brochette de petits-enfants, le goût de la fête et du partage, elle avait tissé tout cela de main de maîtresse-femme qu'elle semble être. Seulement, Carlo est arrivé. Et du coup, elle a fait un livre. Carlo en est le héros omniprésent. Et elle a bien fait de l'appeler comme ça, parce que carcinome lobulaire infiltrant et carcinome canalaire, c'est pas vraiment des jolis noms. Ça va avec rien. En tout cas, ça n'allait pas avec sa vie. Bonjour et soyez les bienvenus dans Égosystème jusqu'à 14h sur la première. Notre invitée s'appelle Manuela Viller. Son récit est une autopathographie, un remède qu'elle s'est créé elle-même en écrivant. Elle décrit sa maladie avec ce nom qui fait si peur. Les rapports à ceux qui soignent, à ceux qui aiment, et qui peuvent souvent être les mêmes, mais pas toujours. On va lui poser la question. Il est question de son histoire, justement, des manques ressentis, du parcours jonché de complications. Fuck my cancer, en est le titre. En brut, Manuela Viller, vous n'avez pas manqué votre coup. Bonjour.
Bonjour Florence.
Drôle d'arriver que ce Carlo dans votre existence au mois de juillet 2013 quand même. Hein,
oui, une arrivée en fanfare, bien que... Le premier cancer que j'ai eu lorsque j'avais 32 ans devait être un de ses copains, un de ses cousins. Ça a été une très grande nouvelle. Il s'était installé dans mes deux seins. Mmh. Il avait déjà pris beaucoup de place. Lorsque j'ai commencé à bloguer, à parler de lui, 8 jours à peine après le premier diagnostic, je l'ai personnifié parce que d'abord, c'était pour être drôle, parce que je ne voulais pas étaler mes états d'âme à ce moment-là. Et mon cerveau, pourtant, tournait très très vite et sans pause. Et lui donner la parole, un copain l'a dessiné. Il en a fait un gominet avec des grosses chaînes en or et des tongs, ce qui, pour juillet, était assez raccord avec la météo. Et Carlo est très très bête sur les premiers articles du blog. Il lui arrive plein de malheurs, puisque... C'est pendant la période des diagnostics, donc c'est lui qui subit les biopsies, c'est lui qui passe à l'IRM, c'est lui qui entend toute cette musique techno qu'il n'aime pas. Et puis après, j'ai été un petit peu plus sérieuse quand les choses se sont précisées. À partir du moment où le programme thérapeutique m'a été communiqué, ce qui a quand même pris un mois, la bonne nouvelle, c'est que à ce moment-là, mon cancer était relativement limité à mes deux seins, qui étaient fort généreux, et il avait pris à peu près toute la place à l'intérieur.
Là, on est en juillet 2013, Manuela Viller. À peu près une année de récit dans votre livre. Là, on est 2 ans plus tard, juillet 2015. La question, évidemment, qu'on se pose, c'est comment allez-vous ? Vous êtes là, vous êtes venu vraiment très gentiment depuis Lyon jusqu'à nos studios de Genève.
Avec plaisir.
Ça va ?
Ça va plutôt pas mal. Je veux dire, il y a plein de ups and downs. C'est les montagnes russes. Il y a eu le récit, donc s'arrête en juillet 2014. Donc moi, on m'a coupé. Il y a eu la chirurgie. Ils m'ont empoisonné. Ils m'ont tellement bien empoisonné qu'on a dû arrêter l'empoisonnement à la 4e cure de chimio. Ça, c'était une décision partagée avec mon oncologue, parce que j'étais dans un tel état de délabrement physique qu'il était hors de propos de continuer. Et puis après, j'ai refusé la radiothérapie. Ça, c'était pas une décision partagée. C'était une décision unilatérale. Je me suis retirée de la table des négociations. Après ce refus, j'ai soigné les neuropathies laissées par la chimiothérapie. Et mon oncologue m'a laissé quelques semaines de délai. Et ensuite, il était question de démarrer l'hormonothérapie. Comme j'ai un cancer qui est à 99% hormonodépendant, je me suis dit que je pouvais peut-être pas trop jouer avec mon existence. Et dans un premier temps, j'ai été conciliante et j'ai pris mon traitement comme un bon petit soldat. Et sont apparus une succession d'effets indésirables que beaucoup de femmes connaissent. Donc je vais peut-être pas vous les énumérer. Mais globalement, j'ai eu toute la liste. C'est-à-dire quand vous lisez sur une notice de médicaments...
Tous les effets secondaires
voilà,
possibles.
Voilà, alors il y a les effets indésirables communs, moins communs, très peu communs, extrêmement rares. J'ai eu tout. toute la liste.
Cumularde.
Voilà, Cumularde. Donc j'ai tenu jusqu'au mois d'avril de cette année. Et là, j'ai décrété de nouveau unilatéralement l'arrêt brutal des hostilités. Il faut environ 6 mois pour éliminer de l'organisme ces molécules. Je commence à aller un peu mieux. Puis il y a d'autres choses qui se déclenchent qui n'étaient pas prévues au programme. Donc pour le moment, on va dire que ça va. Vous savez, c'est... Vous sautez du 17e étage et vous dites jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Ben voilà, moi jusqu'ici tout va bien.
Mais vous, vous alliez faire des mammographies de manière régulière?
Moi, j'avais eu un premier cancer de l'utérus très jeune, avec heureusement, j'avais eu la bonne idée de faire mes 4 enfants avant, puisqu'après j'ai plus eu d'utérus. Et mon médecin traitant, le médecin de famille, m'a fait suivre, c'était le même, pendant quelques années. Et puis, on a un peu lâché l'affaire. Et autour de la quarantaine, mon généraliste m'a dit on devrait faire une mammographie de référence pour avoir une image de tes seins. Il n'y avait rien. En tout cas, la mammo était suffisamment mal faite pour qu'on n'y voit rien. Et le type de cancer que j'ai, et qui a été donc diagnostiqué en juillet 2013, c'est un cancer à évolution très lente. Et donc, il est peut-être possible qu'il était déjà présent dans mes seins à ce moment-là, mais que l'imagerie qui a été faite ne l'ait pas vue. Toujours est-il qu'en 2013, il était suffisamment visible pour être vu. J'ai fait cet examen parce que je sentais qu'il se passait quelque chose dans mon corps. J'avais des signes, pas de symptômes particuliers, rien dans l'aspect, etc. Mais je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, et je me suis dit, allons faire une mammographie. Et ça a été bingo gagnant, puisque je suis sortie avec... un compte-rendu qui notait ACR5, qui dans la codification ne laisse aucun doute, c'est-à-dire cancer avéré pour les deux seins. Et donc j'ai choisi à ce moment-là le centre Léon Bérard à Lyon.
Cancerland.
Oui, mais Cancerland c'est valable pour tous les centres. Mais je l'ai appelé Cancerland parce que c'est Disneyland mais avec un cancer. Quoi. Il se passe des trucs toujours formidables, il y a des attractions, c'est très très bien.
Ouais, et on fait la queue comme à Disney pour avoir pour
aller
aux attractions.
Ah ben on fait la queue et puis même si vous avez une carte handicapée, vous n'avez pas de passe-fil. Mmh.
Mais ce basculement en juillet 2013, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit ?
Je me suis inquiétée pour mes enfants et mon mari.
Et le premier que vous appelez d'ailleurs, c'est lui ?
Ah oui, oui, oui. Bah, de toute façon, alors c'est pas le premier que j'appelle tout à fait, Florence. J'ai d'abord commencé par appeler mes ressources pour trouver un rendez-vous. Parce que j'ai toujours, dans les épreuves que j'ai traversées avant, parce qu'à 53 ans, la vie n'a pas été un long fleuve tranquille, j'ai toujours réagi d'abord de manière optimale. C'est-à-dire, quelle est la solution au problème que je rencontre ?
Pragmatique.
Pragmatique. Et donc là, la solution, c'est j'avais un cancer, je sortais d'un cabinet de radiologie à Paris où je travaillais à ce moment-là. Donc j'ai appelé un ami qui connaissait l'ancien directeur du centre Léon Bérard, pour avoir ses coordonnées, j'ai pris en photo le compte-rendu de radiologie, je lui ai envoyé, il m'a répondu, et à partir du moment où la prise en charge théorique était en route, là j'ai appelé mon mari, parce que j'avais déjà un plan d'action. Certes, j'étais angoissée au dernier degré, mais avant de partager cette angoisse avec l'homme qui partage ma vie, je voulais partager le début de solution.
Donc c'est le radiologue qui vous a dit clairement ce qui...
Oui, j'ai un peu extorqué, voilà. Alors c'était le début de... ma capacité d'interrogation exacerbée. Et j'ai vu sur son visage, au moment où elle faisait les échographies complémentaires, que c'était mauvais. Donc je lui ai tiré les verres du nez et j'ai obtenu la réponse. Et je lui ai demandé donc de me remettre le compte-rendu avec les images.
Du coup, vous aviez une idée de ce qui vous attendait à quel moment ?
Oui, bah oui. Oui, oui. Enfin, j'avais aucune naïveté sur comment on soigne un cancer du sein. J'avais aucune naïveté sur comment on soigne un cancer tout court, parce que j'avais dans mon environnement des gens qui avaient été malades, parce que quand vous avez une cinquantaine d'années, vous avez des femmes de votre génération qui ont eu un cancer, et moi j'avais perdu une amie très chère d'un type de cancer bien plus invasif et inflammatoire que celui qui m'a été diagnostiqué ultérieurement, et je l'ai vue se battre avec beaucoup de courage. Mais le cancer a gagné et elle est morte. Donc oui, je savais ce qui m'attendait. Et je m'attendais au pire. Alors ça doit être mon côté juif ashkénaze. C'est-à-dire que bien entendu, je pensais que j'avais déjà des métastases osseuses, au foie, au poumon, au cerveau. Enfin, j'avais le programme complet en noir, qui s'est avéré un peu plus léger quand même au terme du diagnostic et du bilan d'extension qui a été réalisé.
Ce qui vous a presque permis aussi du coup de prendre ça pour une bonne nouvelle.
Mais voilà, donc j'avais du coup, comme j'appréhendais le pire, j'ai pris tout de suite une distance sur les choses et donc j'ai dit et écrit que j'avais pas de métastase osseuse et j'ai utilisé l'image de les Allemands ont pas encore envahi la Pologne.
Mais 30 jours d'attente quand même, alors entre le moment où c'est la moyenne.
J'ai été diagnostiquée, donc la première imagerie c'était le 4 juillet 2013 à Paris. Vous savez, il y a des jours dont on se souvient particulièrement. La fin des examens, c'est fin juillet, et ensuite on a programmé la chirurgie à la troisième semaine d'août, ce qui était parce qu'il n'y avait pas d'urgence. Mais
vous n'avez pas perdu de temps, clairement dit.
Ah si, enfin j'en ai perdu tellement. Tout le temps que vous passez en attente, vous le perdez. Il ne revient pas ce temps-là. Donc je l'ai perdu. Je ne l'ai pas perdu d'un point de vue thérapeutique, c'est-à-dire mon état ne s'est pas aggravé à cause de ce temps-là. Mais j'ai passé le mois de juillet à attendre dans les salles d'attente de Léon Bérard, à attendre les comptes rendus, à attendre les rendez-vous qui ne sont pas coordonnés. Enfin bon, et oui, vous perdez du temps. Et vous perdez du temps et de la qualité de vie. Parce que ce mois de juillet, qui était certes utile pour identifier Carlo, j'aurais préféré venir au bord du lac et aller me baigner.
Parce que votre vie, on le comprend, vous restez alors évidemment sur la maladie, sur votre histoire et sur Carlo. Mais dans votre histoire, il y a aussi l'odeur des brioches, il y a aussi les confitures, il y a aussi les enfants, les petits-enfants. Il y a toute cette réalité-là qui tout d'un coup bascule.
Le mois de juillet, c'est un mois où il y a des anniversaires, le mois d'août aussi d'ailleurs. Avec les éléments rapportés dans notre famille. Maintenant, au mois d'août, il y a aussi des anniversaires. Et donc, on a l'habitude de se réunir et on a gardé cette habitude. Ce qu'il y a, c'est que la famille a été très perturbée par ma possible mortalité avancée. Moi, j'ai perdu ma mère très jeune.
Vous aviez 15 ans.
J'avais 15 ans. Ouais. Quand j'ai passé l'âge fatidique des 44 ans, qui était son âge lorsqu'elle est morte et le même âge que sa propre mère, je me suis sentie soulagée, je me suis dit « ouf, j'ai passé un cap complètement idiot comme réflexion, mais enfin bon ». Et je pense pour eux, ce qui a été à la fois le choc, ça a été l'annonce, on ne leur a rien caché, ce sont des adultes, donc ils étaient dans la capacité d'entendre ce qui se passait. On en a beaucoup parlé pendant l'été, puisqu'on s'est vus. Chaque personne, enfin, de toute façon, réagit aux annonces avec ses propres outils. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé. Certains de mes enfants ont lu mon blog, d'autres ne l'ont pas lu. Un de mes fils n'a pas lu mon livre et je respecte son choix. Je veux dire, il n'y a pas d'obligation de lire. Il me voit, il me parle, il s'occupe de moi, il n'a pas besoin de lire. Et je pense que c'est cette impudeur à partager qui est peut-être... pour lui, en tout cas, le plus difficile, parce que quand le projet de livre s'est fait, ma première idée a été de l'écrire sous pseudonyme, parce que je savais que j'allais faire, il y avait allait avoir une mise à nu. Et donc j'en ai parlé aux enfants et à mon mari à l'automne 2014, et ils m'ont tous dit « mais t'es cinglé, enfin, tu signes avec ton nom, point ». Donc j'ai commencé à, sur les réseaux sociaux, sur le blog, à mettre mon nom.
À apparaître.
Ouais. C'est-à-dire à me dévoiler un peu plus. Mm-hmm. Et visiblement, enfin, ça leur a apporté une certaine fierté. Je pense cette capacité que j'ai eue à transformer cette aventure assez sordide qu'est le cancer en quelque chose de plutôt positif. Et je pense que c'est ma capacité de résistance qui est... voilà. Après, la cuisine, vous parliez de la cuisine. Bon, la cuisine, c'est mon truc. C'est mon truc de mère juive. Il m'aime, il mange.
Tu m'aimes pas, mon fils.
Voilà, c'est ça.
On va parler de tout ça, on va parler des liens aux autres, on va parler des liens au corps médical. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à aborder à travers votre livre, Manuela Villers. Chronique garantie sans eau de rose, c'est écrit sur le livre, maison d'édition, Fayard, Fuck My Cancer. Le titre, et on se retrouve après Émilie Loiseau, Parce que mon rire a la couleur du vent. C'est une belle chanson, choix de François Piton, notre programmateur. À tout de suite.
Parce que mon rire a la couleur du vent, parce que les ours se réveillent au printemps, je n'irai pas creuser sous l'arbre toi la blême, toi la blafarde. Je suis le singe qui se balance là-haut, la sioux qui fait un tipi de ta peau. Oui, moi je grimpe sur les arbres, pauvre faucheuse, pauvre vieillarde.
Parce que mon rire a la couleur du vent. Parce que mon rire a la couleur du vent.
Je suis de glaise et tu me tords. Je suis de chair et tu me mords. Mais j'irai pas creuser sous l'arbre. Oh, toi la caire, toi la camarde.
Parce que mon rire a la couleur du vent. Parce que mon rire a la couleur du vent.
Quelques informations routières et la suite d'Écosystème dans quelques instants.
Infotrafic RTS.
Sur l'axe Genève-Ost, un temps d'attente d'environ 1h30 est annoncé au péage français du tunnel du Mont-Blanc en direction de l'Italie. Sur l'axe Lucerne-Chiasso, un bouchon de 5,7 km Hersfeld et le portail nord du tunnel de Saint-Gothard en direction du Tessin, ce qui représente 1 heure d'attente. Et puis un peu plus loin, sur le même axe, une colonne de 8 km est signalée à l'approche de la douane de Chiasso en direction de l'Italie. Environ 30 minutes d'attente y auront lieu. En sens inverse, on compte actuellement 7 km de bouchon devant l'entrée sud du tunnel du Saint-Gothard en direction du nord, soit un temps d'attente 1h15 environ. Il vous est conseillé, vous, automobiliste en direction du nord de la Suisse, de passer plutôt par l'A3 et l'autoroute A13 également et le tunnel du San Bernardino.
Deuxième partie d'Écosystème, Manuel Avillère, notre invité, avec ce journal de bord, une chronique sans eau de rose pour nous parler de son drôle de voyage à Concerland, de sa rencontre avec Carlo. Et vous avez appris en ce mois de juillet 2013 à devenir patient. J'avais jamais réfléchi à ce mot patient.
Patient, enfin, je n'ai pas appris. Hein. En réalité, je n'ai pas appris. Je suis toujours impatiente, mais j'ai appris à attendre avec plus ou moins de bonheur et en occupant ce temps d'attente à établir des liens avec les autres patients. Donc, il y a des rencontres. Il y a celle que vous faites pendant les séances de chimio, en attendant votre séance de chimio. Donc là, vous rencontrez, puisque vous venez toutes les 3 semaines, vous rencontrez les mêmes femmes. Donc chacune se jauge. Si vous avez le même protocole et que vous avez 15 jours d'avance ou 15 jours de retard sur l'autre, vous voyez l'état de dégradation évoluer de l'autre. Et on se dit « Ah, c'est là que je vais donc mmh. !» Mais en réalité, ce n'est pas vrai parce que chaque individu réagit différemment, même au même produit.
Et votre médecin vous dit « Vous n'êtes pas une statistique. »
C'est-à-dire pour oui, alors ça, c'est la grande question voilà. Que tous les malades ont. Donc, il voulait m'enlever un sein parce que tout le sein était envahi. Et il voulait, dans l'autre, essayer de préserver... Mmh. Bon. Sans rentrer dans des détails, enfin, moi, j'avais 53 ans, donc mes seins sont apparus lorsque j'avais 11 ans. Je trouvais qu'ils avaient une durée de vie qui était assez longue. Et comme je l'écris, leur obsolescence était avérée. Et donc, j'ai dit, on coupe. Bon, mon chirurgien n'a pas compris, entendu ma demande.
Oui, il a insisté, vous avez repassé
les examens. Il a insisté, après j'ai fini par hurler, par voie de mail, et donc il a fini par entendre. Et donc, bon, une fois la chirurgie terminée, donc il s'est avéré que mon cancer était sorti de mes seins déjà, et il avait infiltré mon plexus. Donc j'avais une partie de chacune des plaies, enfin des cicatrices, qui était restée une plaie.
150 jours
oui.
avant.
Voilà, donc j'ai eu le bonheur de fréquenter assidûment mes infirmières. Et j'ai beaucoup de respect pour le travail de ces femmes qui ont été d'un soutien absolument formidable. Mais d'un autre côté, à cette période-là, à partir du moment où j'ai retrouvé la mobilité de mes bras et où les douleurs neurologiques liées à la chirurgie s'estompaient, ben j'ai repris mes activités en cuisine. Parce que la cuisine, quand vous ne dormez pas à 4 heures du matin et que vous ne réveillez personne dans la maison... ça occupe. Donc j'ai fait des confitures, je faisais des brioches, je postais les photos sur Internet. Il y a toujours des gens réveillés sur Twitter la nuit, qu'ils habitent près de chez vous ou à l'autre bout du monde. Donc ça a été un système de support assez formidable. Je leur donnais un peu faim, mais comme je ne mangeais pas tout ce que je fabriquais, j'en faisais profiter les infirmières, la kiné, mes enfants, je congelais. Enfin voilà. Et donc il y a eu un petit côté frénétique obsessionnel. Qui était déjà existant auparavant, puisque j'ai toujours été une cuisinière assez frénétique, ça m'a permis aussi de débrancher mon cerveau quelque temps. C'est-à-dire, quand vous êtes dans votre cuisine à faire de la pâtisserie, vous ne pensez qu'à ce que vous êtes en train de faire, et ça m'évitait de m'interroger sur le cancer en permanence.
Et c'est la vie, c'est l'incarnation voilà. de la vie, du partage, avec un sentiment la colère, on en a parlé au tout début, c'est-à-dire la colère qui s'est très vite transformée, enfin, qui vous a donné une énergie, le sentiment d'injustice, parce que c'est vrai que vous êtes quand même une cumularde, alors on l'a dit, c'était effectivement un deuxième cancer, vous avez vraiment eu tous les effets secondaires, tous les trucs, il y a eu un moment, un sentiment d'injustice où vous vous dites, mais pourquoi moi ?
Oui, alors bon, le truc avec le cancer, c'est que c'est injuste, globalement.
Bah oui.
C'est-à-dire, il y a toujours une bonne âme pour vous dire « Ah, mais c'est ton style de vie, tu fumes, t'es trop grosse. » Sauf que j'ai pas eu le pire. La colère m'a nourrie. Alors, il y a la colère, pas seulement contre l'injustice qui m'était faite par cette maladie, que personne ne souhaite avoir, mais la colère contre le système. Alors, l'administration française... Donc pour vos auditeurs qui sont en Suisse, la sécurité sociale française est pleine d'une imagerie de préjugés et de clichés. Ils sont tous valables. Je veux dire, moi, j'ai eu droit à tout. Et puis, le cancer, j'étais en colère parce que ça vous fait perdre beaucoup d'argent, le cancer. La maladie, vous croyez être bien assuré, mais vous ne l'êtes pas. Donc, vous perdez... Moi, j'ai perdu 75% de mes revenus. Nous avions des engagements financiers préalables auxquels on n'a pas pu faire face, donc ça déclenche des tas de choses. Bon, après, vous remettez les choses à leur place. Les ennuis d'argent par rapport à votre risque de mourir d'une maladie, c'est en dessous, quoi. Mais tout cumulé, ça fait beaucoup.
Une couche de plus.
Oui, et puis il y a des femmes que j'ai rencontrées qui, elles, cumulent encore plus, puisqu'elles n'ont pas la chance d'avoir une famille proche, un conjoint qui s'enfuit. Donc elle se retrouve avec la nouvelle de la maladie, des enfants éventuellement à gérer et plus de compagnons. Donc je me dis que finalement, j'ai pas eu tellement de malchance dans mon histoire.
Carlo, donc le héros de Fuck My Concert, c'est... Enfin non, c'est vous l'héroïne finalement, Manuela Villars, quand même. C'est
alors je me décerne parfois des titres de super-héros.
Oui.
Parce que j'aime bien, parce que c'est mon univers culturel, cette culture du super-héros, puisque ma mère a été élevée aux États-Unis et nous a transmis les bonheurs des bandes dessinées Marvel. Et j'ai tendance à dire que je suis plutôt Hulk. Celui qui est en colère devient vert, gros et se fâche très très fort et détruit tout. Donc ça c'est. Mais j'ai eu pendant une séance en radiologie, j'ai été témoin de maltraitance, non pas à mon encontre, mais à l'encontre d'une femme qui était dans une situation de vulnérabilité totale, qui a été maltraitée, abandonnée, dirons-nous, sur son chariot, les fesses à l'air avec ses merveilleuses blouses d'hôpital. Et comme moi, j'étais encore en pyjama de bloc, puisqu'on venait de m'insérer un cathéter dans le bras pour la chimiothérapie, j'ai interpellé cette femme. J'avais oublié mon costume de Batman au vestiaire, mais j'ai quand même réussi à ce qu'elle soit couverte et qu'on lui restaure sa dignité temporaire. Je pense que tous les malades sont des héros, en fait. On est obligé d'être un peu héroïque si on veut résister au système.
Je ne te dis rien, tu es là pour subir, tu es trop stupide pour comprendre, laisse-moi bosser.
Oui, alors on me l'a pas dit comme ça, c'est ma tête qui a... Enfin, c'est une phrase du livre, j'ai interprété un comportement. Donc ça, c'était dans un service d'imagerie nucléaire. En France, vous avez droit au respect de votre vie privée à l'hôpital. Néanmoins, on vous interpelle par votre nom du bout du couloir. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas qu'on m'appelle Madame Villers de très loin en criant fort. Bien que je sois un peu sourde, néanmoins, j'aime bien qu'on vienne me chercher et qu'on se présente. Donc je réponds mal, avec humour, ça désarçonne parfois les interlocuteurs. Et puis, j'aime bien savoir ce qu'on me fait, même si je me suis informée avant, parce qu'il y a une composante qu'on n'a peut-être pas abordée, c'est quand on est malade au long cours, il faut être au contrôle de sa maladie et donc la connaître. Et la connaître pour être dans la capacité de discuter avec ses soignants et peut-être des fois refuser des choses.
Ce que certains médecins, pardon, vivent assez mal, c'est-à-dire qu'ils disent mais aujourd'hui n'importe qui va les consulter sur Internet et puis arriver avec déjà un diagnostic tout fait, ça les met.
Alors moi c'est pas, oui, ça, alors ça je peux comprendre, c'est très désagréable.
Voilà.
Moi le problème n'était pas d'arriver avec un diagnostic. Moi je demandais des réponses scientifiques. Donc j'ai consulté non pas les forums de malades, ça peut faire du bien à certains, moi pas. J'ai consulté des études relatives à mon cancer, à mes cancers, aux pathologies que j'avais, aux dernières études sur les molécules. Donc j'arrivais avec des demandes concrètes qui étaient liées au choix thérapeutique que faisait le médecin. Et pour les examens d'imagerie où j'ai pas été très bien traitée, c'est-à-dire que moi je les mets face à leurs responsabilités et je râle. Mais quand je pense à la vulnérabilité des malades atteints de cancer qui sont dans l'incapacité de verbaliser, je me dis, mais qu'est-ce qu'on endure? Est-ce qu'on est là pour ça? Et je pense, et il y a une réflexion, enfin, auprès les médecins réfléchissent à ça, sur la formation des personnels pour éviter qu'ils rentrent dans une routine et qu'ils perdent de vue l'humanité du malade et qu'ils arrêtent de traiter la pathologie ou l'organe. Et je remarque que c'est plutôt les personnels les plus techniques qui sont les moins humains. C'est-à-dire, plus il y a d'écrans, plus il y a de machines, moins on vous touche.
Vous êtes un objet d'observation.
Mais vous n'êtes même pas l'objet, parce qu'on ne vous regarde pas. On va regarder le dossier, on va vous regarder à travers un écran, mais vous, on ne vous regarde pas. Moi, on m'a un jour, après la chirurgie, moi j'ai fait le choix de ne pas porter de prothèse externe, et il était hors de question d'une reconstruction mammaire, pour que vos auditeurs comprennent. Donc j'avais le thorax plat. J'avais le thorax plat, mais j'avais un abdomen gonflé du fait des effets de la chimio et de ma bonne nature, mais amplifié par la chimio. Et donc on m'a cherché de nouveau en radiologie, et la personne m'a appelé, ne m'a pas regardé, et m'a dit de manière automatique, entrez là, enlevez votre soutien-gorge. Bon, ça se passe dans un service de radiologie, dans un centre de lutte contre le cancer. Il est marqué en grand que j'ai eu une mastectomie. Bon, moi j'ai hurlé. J'ai hurlé, la porte entre le vestiaire et la salle d'attente était encore ouverte, donc tout le monde a entendu. Et plutôt que de s'excuser pour une maladresse qui m'a blessée, parce que j'étais dans un état de nouveau de vulnérabilité plus importante qu'à l'habitude, elle a continué en parlant de mon ventre. Bon, là, ça m'a vraiment exaspérée. Donc le lendemain, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le service des litiges, enfin des relations avec les usagers, ils appellent ça comme ça. Leur crainte, c'était que j'entame une action en justice. Moi, j'ai absolument aucune velléité d'obtenir une réparation en justice. Ce que je voulais, c'était les alerter sur ces dérives de comportement. Ils ne m'ont jamais répondu. Enfin, ce médecin en charge des relations avec les usagers, après l'avoir eu au téléphone, devait me tenir au courant. Je n'ai jamais obtenu de réponse. Il y a quelques jours, j'ai eu une réunion avec la nouvelle direction du centre Léon Bérard parce que la sortie du livre a eu un effet qui se coule. C'est qu'ils ont un peu plus pris en compte ma parole, notamment ma parole de proposition d'amélioration du système, parce que la critique est facile, mais j'essaye d'améliorer les choses. Et il se passe des choses plutôt positives. Maintenant, on va attendre. Je n'ai aucune naïveté. C'est-à-dire, me recevoir était déjà un effort. Ils ont été nombreux à être là et on a échangé. C'était positif. Mais je n'ai pas de naïveté. Je sais très bien que ça pouvait être juste un one-shot et qu'il n'y aura peut-être rien, bien qu'il m'ait promis qu'il y aura autre chose derrière. J'attends pour voir. C'est comme au poker. Moi, j'ai mis mes cartes sur la table. Maintenant, c'est à eux de miser pour voir.
Parce que qu'est-ce qu'un bon soignant, finalement, Manuel Avillers ? Aujourd'hui,
un bon soignant,
vous diriez quoi ?
C'est quelqu'un, d'abord, qui a des compétences. Parce qu'avant tout, on vient pour se faire soigner.
Donc, oui, technique, chirurgicale.
Voilà, moi, je dis voilà. Les patients ont devenir des experts de leur maladie. Ils n'ont pas fait d'études de médecine, donc on ne va pas usurper les rôles. Pour moi, en tout cas, je dois pouvoir lui faire confiance. Ce n'est pas une question d'âge, puisque mes médecins ont l'âge de mes enfants et que finalement, la confiance s'est installée. Donc avant tout des compétences, une capacité d'écoute et de l'empathie. Et l'empathie, c'est pas donné en cadeau à la naissance à tout le monde. Ça n'est pas enseigné dans les écoles. Par contre, je veux dire, on peut travailler sa capacité à devenir empathique. Alors le médecin doit garder une distance avec le malade pour être efficace. Moi, je lui demande pas d'être mon meilleur ami. Et on sait très bien qu'il faut pas mélanger les relations soignant-patient. Ça doit rester avec une forme de distance si on veut que le médecin reste objectif sur votre cas. Ce qui ne l'empêche pas de vous considérer et de vous regarder et de poser des questions et d'attendre le temps de la réponse. Parce que tout le monde n'a pas le même temps de réponse. Donc moi, ce que je dis aussi, c'est que je n'ai pas de naïveté sur le système de soins. Il y a de plus en plus de malades. Les médecins sont obligés d'enchaîner beaucoup de consultations. Ils en raccourcissent parfois certaines. Moi, je n'ai jamais eu à me plaindre. On m'a jamais poussé dehors d'une consultation médicale. Enfin, je veux dire, jamais. Et j'ai débordé largement des fois sur le cadre horaire imparti.
Mais ce qui explique.
Non, mais il y a les retards cumulés.
Voilà, les retards cumulés.
Alors après, le chirurgien, il a des retards parce qu'il a des retards au bloc, parce qu'il y a des imprévus opératoires et puis il y a des urgences. En oncologie, il y a des retards. Parce que la parole ou les choix thérapeutiques doivent être expliqués aux malades jusqu'à ce qu'ils les comprennent. Moi, je leur propose, et je propose en essayant d'apporter des solutions financières derrière, qu'on instaure ce que j'appelle une sage-femme de la parole, qui peut être un homme mais, ou une femme, et un interlocuteur privilégié. Ce qu'on a dans la culture, on a les médiateurs culturels. Et je pense que quand vous arrivez aujourd'hui dans un hôpital, quel qu'il soit, pour une maladie chronique, enfin une maladie qui va devenir chronique, en même temps qu'on vous enregistre vos données administratives, si ça marche, on devrait vous assigner un médiateur, une médiatrice, quelqu'un qui va être là pour vous et que vous ayez, pendant tout votre parcours, un seul interlocuteur pour servir de médiateur entre vous et les services concernés. Mmh. Parce que il y a hélas aussi des patients qui sont mal entourés, qui n'ont pas de bons médecins de famille. Moi, ma chance, c'est que j'avais un médecin généraliste depuis presque 30, 25 ans et il a été d'un grand secours.
Mais on va parler justement des liens dans la dernière partie d'Écosystème après Anna Aron, Sea Monsters. On va parler des liens avec alors ceux que vous avez côtoyés de manière entre guillemets virtuelle à travers le blog ou maintenant à travers le livre. Et puis évidemment de vos proches avec tout ce que veut dire l'arrivée de cette maladie, tout ce que ça veut dire dans le chamboulement des rapports. À tout de suite, Manuela Villers.
Dark that disappeared when you walked into the room of my mind. This is the black I've been coughing up since I dived down to the lowest part.
You woke the monsters in the sea. Now they're coming after me. So love.
Notre invité jusqu'à 14h, Manuela Villers, le titre de son livre « Fuck my cancer » paru aux éditions Fayard. Vous voyez, j'ai dit le mot « cancer » parce que vous venez de me dire pendant le disque, vous parlez pas du mot, vous dites pas le mot « cancer ».
Oui, je pense que c'est important de nommer la maladie.
Moi, j'ai parlé à Carlo, comme vous, et tout ça, oui. J'avais pas l'impression que ça me faisait peur,
non,
mais
non.
ça pourrait me faire peur.
Mais je pense que, enfin, à vous particulièrement, je ne pense pas que ça fasse peur, mais le parce qu'on ne se connaît pas assez, mais il faut nommer les choses. Certes, mon cancer est un carcinome. Il y a peu de gens qui comprennent le carcinome. On vit dans une société où on évite de nommer le cancer. Les avis de décès sont libellés. Il est mort d'une longue et cruelle maladie. Moi, je ne connais pas de maladie qui soit courte et sympa, quoi, dont on meurt. Enfin, on peut mourir d'une rupture d'anévrisme cérébral. Ma mère en est morte. Ça n'est pas sympa du tout. Mais c'est court.
Donc parlons de votre cancer et parlons des liens avec ceux qui vous lisent. D'abord, on l'a dit déjà tout à l'heure, hein, vous avez commencé par le blog. Vous ne vous êtes pas mise en scène entre guillemets tout de suite, c'est-à-dire vous êtes arrivée un peu plus tard. Où avez-vous mis, Manuel Avillère, le curseur de l'intimité sur votre blog? Il n'est pas le même que dans le livre.
Non, alors d'abord, que ce soit sur le blog ou sur les réseaux sociaux où je suis très présente, je ne parle jamais ni de mon mari ni de mes enfants. Parce que pendant les 2 ans qui se sont écoulés, j'en parle brièvement dans le livre, mais je respecte leur vie et leur intimité. Donc je parle de moi, je parle de mes rencontres, et si je parle de mes enfants, j'en parle dans une globalité. Je ne fais pas partie de ces grands-mères qui postent des photos de leurs petits-enfants. Je ne donne pas les prénoms de mes petits-fils dans le livre, ni de mes enfants, parce que cette mise à nu que j'ai effectuée dans le livre, elle ne me concerne que moi. Et je ne souhaitais pas aller au-delà. Avec leur accord, mais enfin même, je pense que c'est pas... à nu, mais pas toutes les tripes sur la table. Le curseur, alors, ce que j'ai appelé mon système de support, c'est bien entendu d'abord et en premier mon mari et mes enfants, leurs conjoints respectifs. Parce que quand je dis mes enfants, il n'y a pas de différence entre mes enfants et leurs enfants. Voilà, et leurs conjoints.
Et les remorques. Vous savez qu'on dit les remorques.
Ah ouais, les remorques, oui, les pièces rapportées. Mais les remorques, j'aime pas parce qu'ils sont exactement au même niveau. Et puis, il y a quelques amis proches, quelques membres de ma famille, ceux qui n'ont pas fui. Parce qu'il y en a qui ont fui à l'annonce de la maladie. Il y en a qui m'ont déçu, que j'ai éliminé de mon paysage, parce que le cancer est formidable. Ça vous permet de faire un deuxième nettoyage de printemps dans l'année. C'est-à-dire qu'on peut faire un ménage relationnel. Il faut garder à distance les fâcheux. Et moi, les fâcheux, je les ai surnommés les Yente. C'est un mot yiddish qui représente un personnage populaire de l'imagerie juive qui était une marieuse, mais c'est surtout des gens qui colportent des rumeurs, des ragots. Et donc, quand je me suis aperçue assez rapidement que j'étais devenue l'objet de ces rumeurs et ragots de la part de gens que j'avais connus par le passé, mais avec qui je n'avais plus de relation directe, ça m'a mis très très en colère. Donc j'ai blogué sur ça.
C'est-à-dire qu'on
Ils se sont reconnus.
On parle de votre maladie.
À la plage, à Deauville. J'étais devenue un sujet de conversation.
Ah, tu sais que Manuela...
Voilà. Et alors, tu sais pas la meilleure, mais elle tient un blog et elle raconte son cancer. Bon, alors, à part ça, le problème, c'est que c'était pas très bienveillant. Parce que quand vous tenez un blog, l'idée même, c'est que les gens en parlent. Mm-hmm. Mais ce blog était anonyme au début. Donc, seuls certains savaient que c'était moi. Bon. On va pas non plus leur donner plus d'importance que nécessaire, hein, parce que ça serait...
Mais en tout cas, le ménage, ça c'est certain.
Il y a eu un ménage, et puis il y a eu des choses qui sont... Je pense que tous les malades ont cette expérience, c'est trouver un système de support, de gens qui peuvent, en cas de besoin, être là quand vous en avez vraiment besoin. Donc moi, j'ai par exemple, après la chirurgie, comme on m'a coupé les deux seins, puis que j'ai eu un curage axillaire sous les bras, enfin bon bref, mes bras étaient... pour le moins inutilisable, et les handicapés le savent, vivre sans bras, il faut être très imaginatif pour ce qu'on est capable de faire avec ses pieds. Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec ses pieds, en tout cas pas à 53 ans quand vous ne l'avez pas expérimenté avant, et qu'en plus vous n'êtes pas très souple. Bon, donc moi j'ai toujours un mari qui travaille, donc il avait pris du temps pour moi, mais ce temps n'est pas extensible à l'infini. Et j'ai demandé à mes enfants de ne pas changer leur vie. Donc, ils habitent loin. Je ne voulais pas qu'ils viennent s'occuper de moi parce que je suis ce genre de bonne femme-là. Et j'ai fini après par demander leur aide quand ça a été nécessaire. Et donc, il a fallu trouver comment je faisais quand je renversais un truc dans ma cuisine et que je ne pouvais pas passer la serpillière parce que mes bras étaient inutilisables. Enfin bon. Donc, vous avez un système de support, on va dire physique, assez rapproché. Et puis, il y a le support moral, qui dans mon cas, avec la présence sur les réseaux sociaux, s'est avéré très important. Parce que j'avais des amis virtuels depuis très longtemps, enfin avant d'être malade, Donc certains se sont éloignés parce que le cancer, ça fait peur. Ça fait peur aux femmes, parce que le cancer du sein, c'est un truc de femme, même si 1% des hommes constituent le pourcentage manquant sur la totalité des malades. Et puis, il y a des gens qui se sont révélés extrêmement présents, réconfortants, chaleureux, prenant des nouvelles. À toute heure où j'étais réveillée, et à 4 heures du matin, c'était plutôt sympa. Et la communauté des lecteurs du blog a grossi. Il y a eu des relations par les commentaires, par la page Facebook. Enfin, certaines de ces relations ont débouché sur des rencontres dans la vraie vie. Certains sont venus me rendre visite à l'improviste.
Mais c'était des gens, pardon, Manuela Villers, qui étaient concernés par la maladie d'une manière ou d'une autre.
Pas du tout.
Pas du tout. Qui sont arrivés à vous par la cuisine, par l'histoire.
On partageait des centres d'intérêt communs, puisque j'étais une militante de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme aussi. Et puis, il y en a qui sont venus parce que mes récits hilarants, il faut le dire, de mes diagnostics et de Carlo et de ses terreurs à lui, on fait venir des gens qui ne sont pas malades et qui n'ont pas de malades dans leur environnement, mais qui avaient juste envie de se marrer avec moi sur un sujet grave et qui étaient aussi dans la capacité de comprendre que ce que je disais sur le blog était une version de ce que je vivais et que j'avais la pudeur de pas me répandre sur ce que je vivais. Donc,
Derrière ces non-dits, il y avait une sensibilité, voilà. Il y avait probablement un besoin de réconfort.
Il y a plein de médecins, enfin, c'est très étonnant. Sur Twitter, il semblerait que 70% de mes followers soient des hommes, pas des femmes. Donc comme quoi, ce n'est pas des femmes atteintes de cancer du sein avec qui je discute, parce que j'ai continué à discuter d'autres choses aussi que de cancer, et que mes prises de position sur le cancer business, sur l'administration française, sur plein de sujets, font que y a des gens qui sont intéressés à mon discours. Et puis on échange, c'est-à-dire que je les écoute aussi. Le lien, il n'est pas que dans un sens. Le lien, il est partagé. Et la sortie du livre, ça a apporté quelque chose en plus, parce que je me découvre plus dans le livre. Donc certains ont appris de moi des choses qu'ils ne connaissaient pas. Et là, par contre, moi, ma grande surprise, c'est que en écrivant ce livre, je ne pensais pas m'adresser aux malades. Parce que moi, patiente, je n'ai lu aucun témoignage d'autres patientes. Donc je n'arrivais pas à me mettre dans la tête que ce livre était destiné à des malades du cancer. Et bien finalement, si. Et comme ce qui m'arrive avec mon cancer du sein est transposable sur d'autres pathologies de cancer, j'ai des hommes aussi qui me lisent et qui racontent et qui me contactent et m'écrivent. Et je reçois des mails extrêmement chaleureux. Et je pense que l'avantage d'être un auteur sur le web, c'est que les gens n'ont pas besoin de passer par ma maison d'édition pour me contacter.
Donc du coup
il y a un lien direct. Je ne suis pas non plus la Ménie Grégoire du cancer. C'est-à-dire que je ne dispense pas de conseils. Je ne l'ai jamais fait. Je tourne en dérision ces malades experts qui se prennent pour des médecins, et on peut donner des trucs, ce que j'ai fait pour un site web féminin il n'y a pas longtemps, mais des trucs de base. Genre, vous rentrez de chirurgie, prévoyez une blouse qui s'ouvre devant avec des poches pour mettre les bouteilles de Redon. Enfin, pas des trucs de médecin, des trucs de malade.
De pratique.
Voilà, ayez une table dans votre chambre pour poser les médicaments, enfin des trucs. Apprenez à dormir sur le dos avant la chirurgie, parce que vous allez être obligé de dormir sur le dos, vous allez ronfler, votre conjoint va peut-être pas apprécier, prévoyez une chambre pour lui. Des trucs de malade, pas des trucs de médecin.
Mais qu'on ne dit jamais, parce que c'est des petites choses de rien. Puis
personne n'est... Voilà. Le problème, c'est que personne à l'hôpital n'est là pour le dire. Et que si le malade n'est pas bien entouré, n'a pas une bonne expérience de la fréquentation de la maladie de tiers, eh bien, il ne sait pas s'organiser.
Donc, ça rajoute du stress à
tout ça. Oui, parce que tout d'un coup, le retour à la maison est compliqué. Il y a des gens qui vont venir spontanément proposer une aide matérielle au sens, moi j'en ai pas eu besoin, mais faire des courses pour vous, pour une femme qui est opérée et qui a des enfants en bas âge, qui s'occupe des enfants, qui les emmène à l'école, qui leur donne le bain, enfin quand vous avez les bras dans l'incapacité de fonctionner, qui fait à manger, ou qui apporte à manger, enfin n'importe quoi. Moi, ce qui m'a manqué, c'était que je sentais que personne, en dehors de moi, ne se souciait de comment allaient mes enfants. Donc c'était un peu paradoxal. C'est-à-dire, j'étais malade, on s'inquiétait pour moi. Moi, je m'inquiétais pour mon mari et mes enfants. Mais ça n'aurait pas été... Enfin, c'est normal, je suis leur mère et je suis l'épouse. Mais j'aurais voulu qu'il y ait d'autres gens, bien identifiés dans mon cercle, qui aient cette démarche-là, de décrocher leur téléphone et de dire « Comment tu vas? Est-ce que tu veux venir déjeuner, dîner ?» Voilà, n'importe quoi.
Parce que du coup, vous, ça vous allégeait de ce souci-là?
Non, mais ça m'aurait réconforté de savoir qu'ils avaient une autre oreille. Alors, l'avantage, c'est que la fratrie est extrêmement soudée. Donc, ils se sont parlé et ils ont partagé leurs émotions. Mais j'ai trouvé, en tout cas, pour ce qui est de l'annonce de la maladie, au moment où ils ont à faire face au diagnostic et à la probabilité de perdre leur mère, que personne, en dehors de leur conjoint, bien entendu, et, ne s'est soucié d'eux. Et ça m'a fait de la peine pour eux. Voilà, bon, je l'ai exprimé dans le livre, je l'ai exprimé aux personnes... que j'avais identifié et
qui potentiellement auraient pu être là,
mais ne l'ont pas été. Après, j'ai assez de distance pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Voilà, bon, je dis toujours, je pardonne, mais j'oublie pas, quoi. Enfin, je veux dire, bon, ça, hélas, c'est derrière, c'est fait, c'est passé.
Et face à vous, face à quelqu'un de malade, je vous rencontre. Comment allez-vous? C'est bienvenu.
Bon, moi, je réponds toujours comme avec un cancer, parce que c'est ma manière de répondre. Parce que j'étais en plus une cancéreuse qui avait bonne mine.
Mais vous avez toujours bonne mine,
d'ailleurs. Mais j'ai toujours bonne mine, voilà. Voilà. Mais j'avais bonne mine même, si vous voulez, après la chirurgie, j'avais bonne mine. Pendant la chimio, j'ai eu bonne mine très longtemps, même sans les cheveux, sans les sourcils, avec des cernes. Néanmoins, j'avais bonne mine. Comme j'étais en surpoids, la chimio m'a moins... diminuer que les femmes minces qui perdent du poids et qui tout d'un coup sont très creuses. Bon, j'avais pas le teint particulièrement jaune, j'avais bonne mine, je suis une bonne nature. Donc il y a eu vraiment seulement la dernière cure qui m'a achevée et à la limite, ça a rassuré certains. J'avais enfin une tête de cancéreuse. Et comme j'avais refusé les prothèses de soutien dans l'intérieur des soutiens-gorge, j'ai pas utilisé non plus les perruques. Je suis devenue chauve en automne, donc il a commencé à faire frais, donc j'ai commencé à porter un peu des bonnets. Mais chez moi, j'étais crâne nu, et en dehors de la présence de mes petits-enfants que je ne voulais pas choquer ou traumatiser, j'évoluais crâne nu, ce qui m'allait assez bien. Et puis mes cheveux ont repoussé, et puis ils ont vu que j'avais plus de seins, ça les a pas dérangés non plus. À partir du moment où rien n'est dramatique pour vous, ça n'est pas dramatique pour les autres. Mais le « comment allez-vous » bien sûr, on peut le poser. C'est difficile de trouver une autre phrase. Voilà, c'est un cancer. Dans une même journée, on peut vous répondre de 10 manières différentes.
Et le « ma pauvre » ?
Ah bah là, les « ma pauvre ». Enfin, j'ai fait toute une série d'articles sur les phrases à ne pas dire. Bien sûr, c'est variable selon les personnes. Les gens sont... souvent de bonnes intentions, mais souvent stupides. Je veux dire, il faut être très très clair. Les gens qui viennent vous donner des leçons ou vous proposent des médecines alternatives ayant soi-disant fait leurs preuves, mais c'est bizarre parce qu'il n'y a aucune étude scientifique et c'est pas utilisé, mais c'est un complot international. Enfin, vous voyez, c'est la faute des labos. Bon, moi, on m'a proposé des tas de médecines alternatives. Il y a des soins de support de médecine alternative qui sont efficaces. Je jette pas tout. Mais il y a des gens qui vous disent droit dans les yeux... Non, mais il ne faut pas faire de la chimio, il faut prendre l'infusion de je ne sais pas quoi. Bon, ok. Moi, j'ai du mal à gérer.
Et vous réagissez. Vous aimez toujours l'idée de vieillir, Manuela Villers?
Ah oui, je frétille.
Même avant tout ça, même avant Carlo, vous aimiez cette idée de vieillir?
Ah, absolument.
Voilà.
C'est-à-dire que je n'ai jamais triché avec mes cheveux blancs, avec mes rides. J'en ai peu, enfin, parce que j'ai un collagène naturel lié à mon gras. Quand j'ai fêté mes 55 ans cette année, j'ai effectivement écrit un papier en disant « j'aime vieillir ». Parce que chaque année qui passe, ça veut dire que je suis vivante. Donc oui, j'aime vieillir. J'aimerais devenir cette babouchka toute fripée. Je ne sais pas quelles sont mes chances, mon médecin non plus. Et dans l'absolu, je trouve que c'est pas mal de ne pas savoir. Donc je profite de l'instant, je profite des miens, je profite des nouvelles rencontres. Je tisse des nouveaux liens pour revenir à votre sujet. Et je profite de la vie.
Et ce sera le mot de la fin.
Merci beaucoup, Florence.
Merci, Manuela Villers. Pour vous lire, alors on va mettre les références, évidemment, du blog, enfin de tous vos réseaux, sur notre page, rts.ch, sur la page d'Écosystème. Et rappelez, encore une fois, Manuela Villers, chronique garantie sans eau de rose, en est le sous-titre, c'est paru chez Fayard, et le titre inoubliable, Fuck My Cancer.
Merci.
Merci.
People in the street begging for work and striving for living. Leaders working for the money. Where is the justice? Where is the peace? And a free world with no limit to the greed. Now we want to thrive and learn from nature and life, yeah. To make a better
C'était Géraud sur la première pour se quitter, choix de François Piton. Il y avait Dany Sulam pour le web qui va mettre les infos en ligne. Dès la semaine prochaine, nous vous proposerons une série de 4 émissions en rediffusion. On va prendre nos quartiers d'été. Mais c'est promis, on revient avec un cartable tout neuf à partir du 22 août. On sera là. Que l'été vous soit doux. Restez le samedi de 13 à 14 heures sur la première et restez tous les week-ends. Et comme il vous plaira, sur la première avec un programme spécial d'été. Et comme disait un être cher, n'oubliez pas d'être heureux. Merci de votre fidélité. Sur la première, il est déjà 14 heures.